l'affaire Epstein. Epstein, c'est pas un prédateur sexuel. Oui, donc il a été mis sur le vent de la scène parce qu'il y a eu effectivement des plaintes d'innombrables femmes, si je puis dire, qui étaient plutôt des très jeunes femmes, pour pas dire autre chose.
Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours avec un indicible bonheur que je vous accueille dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen, chaque après-midi 2 heures pour décrypter notre époque à travers un mot, une expression et aujourd'hui un nom. Que vous avez beaucoup entendu ces dernières années, un nom charriant avec lui son lot de mystères, sachant que l'individu a été retrouvé mort dans sa cellule de prison. S'est-il vraiment suicidé ou bien a-t-il été suicidé ? Le mystère demeure autour de notre client du jour, Jeffrey Epstein, l'homme d'affaires américain, figure de la jet set, copain, semble-t-il, de Donald Trump. Il devait être jugé pour trafic sexuel de mineurs en bande organisée, procès qui n'aura pas lieu puisqu'il est mort. Mais une affaire qui est loin d'avoir livré tous ses secrets puisque le Congrès américain mène une série d'auditions sur le sujet. Bill et Hillary Clinton doivent d'ailleurs venir témoigner très bientôt. Nous, on se demandera globalement comment une telle ordure a pu sévir pendant si longtemps sans être inquiétée. On demandera notamment des comptes à celui qui, entre 2002 et 2010, était chargé de le surveiller pour le compte du FBI. L'agent Cyril Lacarrière, qui pourrait faire partie des personnes ayant touché des pots de vin pour fermer les yeux. Pas du tout, avait déclaré Cyril devant la commission d'enquête du FBI, c'est juste que Jeffrey était un mec hyper sympa, toujours le mot pour rire, et moi je ne pouvais pas imaginer qu'il était à la tête d'un réseau, puisqu'il m'avait dit que toutes ses filles étaient ses nièces. Évidemment, avec le recul, je me dis que ça lui faisait beaucoup de nièces, des nièces slovènes, des nièces bulgares, des nièces polonaises. Quand je l'interrogeais sur sa vaste famille, il me répondait « I'm a citizen of the world, Cyril », et il me resservait du brandy. Alors, qui était vraiment Jeffrey Epstein? Qui étaient ses complices? Donald Trump est-il mouillé dans ce dossier? Et ce bon vieux Bill Clinton, dont Cyril a assuré la sécurité sur le tarmac du Bourget, preuve vraiment qu'il trempe dans toutes les affaires. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Mais non,
c'est pas vrai.
Mais si,
Zoom Zoom Zen.
Non, attendez, donne. On ne peut pas dire n'importe quoi de dire d'Inter. Il y a une part de vérité sur cette histoire du tarmac. Vous avez assuré la sécurité de Bill Clinton.
Sur le fait d'avoir croisé Bill Clinton sur le tarmac du pavillon d'honneur d'Orly.
Vous étiez dans la sécurité, dans les métiers de la sécurité à l'époque, Cyril.
Vous avez une photo avec
lui ? Allez.
Une photo, ils sont tous les deux.
Accueillons plutôt notre invité. Bonjour Virginie Villard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Virginie, vous êtes grand reporter pour l'émission Complément d'enquête sur France 2. En janvier dernier, vous avez réalisé un doc sur Jeffrey Epstein, 6 ans après son suicide présumé en prison, l'affaire rebondit. Donald Trump tente de faire oublier son amitié avec le criminel sexuel. Le Congrès, dominé par les Républicains, a ouvert une enquête. Le couple Clinton doit être entendu. Ça devait être d'ailleurs aujourd'hui l'audition de Bill Clinton, mais il a obtenu un report, tout comme sa femme Hillary. Allons-nous enfin tout savoir sur cette affaire tentaculaire? Quels sont les derniers mystères de Jeffrey Epstein? Vous allez tout nous dire. Juste le temps de vous présenter mes reporters à moi. Sachant qu'il n'avait pas réussi à élucider l'affaire dite de la disparition mystérieuse du support de laptop de Marie de Breuer l'année dernière, il y a peu de chances qu'il vous aide à démêler les fils de l'affaire Epstein, mais ils vont essayer. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
Bonjour à tous. C'est vrai qu'on n'a toujours pas retrouvé le coupable.
Le coupable court toujours, certainement dans les couloirs
d'Inter. C'est fou d'avoir volé un support de laptop.
Bon, après, ça peut être très pratique.
Oui, mais
c'est vous.
Peut-être que je l'ai revendu.
C'est lui.
C'est fou.
Manon, chaque après-midi, vous vous livrez vous aussi à une forme de complément d'enquête, sauf que vous avez trouvé un titre bien plus accrocheur, puisque vous avez appelé ça la pièce jointe.
J'en suis très fière. Et aujourd'hui, je vous présente un documentaire qui a mis en lumière les victimes de Jeffrey Epstein. Des témoignages bouleversants de femmes dont la vie a été brisée.
Si Epstein avait tout payé en liquide, il se serait jamais fait chauffer. Voilà ce que lui inspire notre histoire du jour. Quentin, vous êtes le filou de l'équipe, on vient encore de le voir, le margoulin de la maison de la radio. Et chaque matin, puisque de toute façon vous y livrez à divers trafics, vous profitez de ce que vous êtes dans la rue pour faire réagir les passants à notre thème.
Et le nom du jour fait réagir. J'ai profité de notre passage à Marseille pour discuter au pied de la majeure du dossier Epstein. Alors c'est formidable, j'ai rencontré des gens fabuleux, vous l'entendrez, des réponses complètement à la rue avant 16h30.
Vers 16h30 justement, je ne vous laisserai pas repartir cet après-midi sans vous avoir tout dit de Jeffrey Epstein. Son parcours entre petits mensonges et gros mythos mérite bien un zoom zoom test. Juste avant 17h, nous serons rejoints par cet humoriste dont j'ai appris le vrai nom le week-end dernier. Surprise, c'est pas un pseudo pour masquer le prénom ringard Jean-Christophe, le mec s'appelle vraiment GC à l'état civil. Après 17h, vous avez aimé Novembre, vous avez aimé Bac Nord, le réalisateur Cédric Jiménez sera avec nous pour nous présenter son nouveau film Chien 51. Mais d'abord, Virginie Villard, direction ce que l'Amérique fait de pire. Quand on parle de suicide présumé de Jeffrey Epstein, c'est qu'on ne sait toujours pas vraiment s'il s'agit d'un suicide ou d'un assassinat 6 ans après.
C'est une question qui en effet hante toujours l'Amérique, parce que alors moi, au tout début de mon enquête, par exemple, quand je discutais avec mes rédacteurs en chef, ils me disaient bon, on peut aller regarder sur cette piste-là, est-ce qu'il s'est suicidé, et moi je me souvenais, je dis bon, non, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, parce que le ministère de la Justice avait été très clair en disant c'est sûr, c'est un suicide, d'après l'autopsie, il n'y a pas de doute. Et en fait, en creusant, en allant au-delà des thèses complotistes, il y a des éléments troublants. Et moi, j'ai commencé à travailler sur le sujet en rencontrant le frère de Jeffrey Epstein, qui a accepté de nous recevoir à New York. Et lui m'explique que au début, il n'avait aucun problème avec l'idée que son frère ait pu se suicider. Et il a quand même voulu faire appel à un médecin légiste indépendant, c'est-à-dire que c'est un médecin légiste qui a assisté à l'autopsie, mais c'est pas lui qui a fait l'autopsie. Il y avait le médecin officiel qui a fait l'autopsie, et donc il a pris Michael Baden. Michael Baden, c'est pas n'importe qui, c'est un médecin légiste très médiatique, très connu et très respecté aux États-Unis. Et à la sortie de l'autopsie, Michael Baden appelle le frère de Jeffrey Epstein, et il lui dit « Pour moi, ça ressemble beaucoup plus à un homicide qu'à un suicide. » Et là, le frère me dit à ce moment-là, je ne comprends pas ce qui se passe, et il a commencé à s'interroger. En fait, Michael Baden, je vais essayer d'être rapide parce qu'on pourrait y passer beaucoup de temps, mais il y a plusieurs choses qu'il remarque, qui l'interpellent pendant l'autopsie, notamment des fractures au niveau du cou. Au milieu du cou. Et Michael Baden dit, c'est pas le seul médecin légiste à le dire, que lors d'une pendaison, parce que Jeffrey Epstein a été retrouvé avec un drap autour du cou, il dit, lors d'une pendaison, vous n'avez pas de fracture de ses os autour de la pomme d'Adam.
Ah oui,
c'est pas rien. Et donc il dit, par exemple, l'os hyoïde est fracturé, c'est pas normal, parce que normalement, si vous voulez, quand on se pend, c'est plutôt en dessous du menton qu'au milieu du cou. Il dit, en revanche, Michael Baden, qui a beaucoup enquêté sur les suicides en prison, dans les prisons de New York, il dit, j'ai souvent vu ça lors de strangulation. Il a constaté aussi différentes choses qui l'ont perturbé. La médecin légiste officielle qui fait l'autopsie, il affirme qu'elle aussi est interpellée par ça. Sauf que, 3 jours plus tard, la chef de cette médecin légiste va dire « C'est un suicide, sans aucun doute, circuler, il n'y a rien à voir. »
Face à vous, Virginie, c'est lui qui aurait dû normalement arrêter Epstein à temps. A-t-il été négligent ? A-t-il été corrompu ? Bill Clinton, qui viendra bientôt témoigner devant le Congrès que Cyril Lacarrière était un excellent agent de sécurité, puisque le jour où il a assuré la sienne sur le tarmac du Bourget, il ne s'était rien passé. Une chose est sûre, on ne retrouvera jamais son nom dans les fameuses Epstein Files, parce qu'à chaque fois qu'il se connecte à un ordinateur, il prend soin ensuite d'effacer toute trace de son passage, comme vendredi dernier, lors de notre déloc à Marseille. Hein. Cyril, il voulait pas partir sans avoir effacé sa session. Cyril,
déconnecter sa chaîne.
On n'efface pas une session, Mathieu, mais se déconnecte.
Ah ouais. J'arrive pas à fermer.
Cyril, à vous de nous raconter, vous qui l'avez un peu connu, Jeffrey Epstein, d'où ça sort.
Eh bien, imaginez un homme qui se présente comme un génie de la finance, un ami des présidents, des profs de Harvard et des grands patrons de Wall Street, un ami des top modèles aussi, un homme de toutes les fêtes new-yorkaises et hollywoodiennes, mais un homme qui, derrière les portes closes de ses villas et de son île privée, cache un des plus grands scandales sexuels de l'histoire contemporaine. Son nom, on l'a dit, Jeffrey Epstein. Tout commence dans les années 80 à New York. Epstein n'a pas de diplôme, mais c'est un séducteur. Et c'est comme ça qu'il se rapproche de milliardaires dont il gère la fortune, des affaires qui vont faire sa fortune.
Mais c'est un autre business qui se met en place, Cyril.
Et c'est au début des années 2000 que Jeffrey Epstein a commencé à recruter des jeunes filles pour des massages. On dit massage et on met des guillemets, mais on apprend bien sûr, qu'il s'agit de beaucoup plus que de simples massages. Ces jeunes filles sont très souvent mineures, ce qui lui vaut une première inculpation par la justice. En 2008, il plaide coupable en Floride pour sollicitation de prostitution avec mineurs. Il écope de 13 mois dans une prison aménagée. Un sacré bon deal négocié par un procureur qui deviendra plus tard membre de la première administration de Donald Trump.
Tiens.
Et c'est plus de 10 ans plus tard que tout bascule. Le 6 juillet 2019, Jeffrey Epstein est arrêté donc à New York par le FBI. Il a 66 ans et il est accusé de trafic sexuel en bande organisée de mineurs. Il risque à ce moment-là 45 ans de prison. Un mois plus tard, il est retrouvé pendu dans sa prison. Et voilà le début de notre histoire, une histoire tentaculaire.
Merci Cyril. Virginie Villard, une histoire tentaculaire. En effet, que viennent faire les Clinton dans cette affaire ? Je rappelle que Bill devait être auditionné aujourd'hui et Hillary la semaine dernière, mais ils ont obtenu un report.
Un report. Les Clinton, Bill Clinton était un ami de Ghislaine Maxwell. À la base, c'est comme ça que Jeffrey Epstein rencontre Bill Clinton, parce que Ghislaine Maxwell...
Rappelons qui c'est.
Pour nos auditeurs, effectivement. Donc, Ghislaine Maxwell, c'est la fille de Robert Maxwell, un grand mania de la presse britannique. Donc, elle est franco-britannique, d'ailleurs. Et elle est très riche. Et à la mort de son père, elle a rencontré Jeffrey Epstein en 91. À ce moment-là, plusieurs experts vont raconter qu'il y a une sorte de relation un peu perverse qui va se nouer entre eux, c'est-à-dire qu'elle cherche un homme riche et lui cherche le réseau. Et Ghislaine Maxwell a un incroyable réseau, de par son père, ses relations, etc. Et elle est notamment, c'est elle qui va lui présenter le prince Andrew. C'est elle qui va lui présenter Bill Clinton. Et donc, il existe aujourd'hui, ce n'est pas un secret, des photos de Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein et Bill Clinton. On sait que Bill Clinton a voyagé plusieurs fois à bord du jet privé de Jeffrey Epstein. Et donc, aujourd'hui, cette commission d'enquête aux États-Unis veut interroger les Clinton pour savoir quelle était la nature des liens qu'ils entretenaient avec le financier.
Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Quand Zoom Zoom marche sur les plates-bandes de Fabrice Drouel.
Aïe, 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 vous me faites mal, Mathieu.
Oh, Fabrice, j'ai cru que vous étiez vraiment à côté de moi en studio.
Ah bon ?
Quentin, tellement votre imitation.
Bien. Allez, bien. Allez, bien.
pardon, mais je ne m'attendais pas à ça. Parce que d'habitude, vous le faites bien. Retour sur l'affaire Epstein cet après-midi avec la journaliste de complément d'enquête Virginie Villard, qui lui a consacré un documentaire il y a quelques mois pour France 2. Virginie, vous êtes particulièrement penchée sur les zones d'ombre et les nombreux ratés de cette enquête. Pourquoi ça a été aussi chaotique pour la justice d'enquêter sur Jeffrey Epstein ?
Sur quel parce qu'il y a, ça dépend sur la mort, sur cette
Alors,
affaire,
peut,
sur son implication.
On peut revenir sur la mort. Déjà, autour de sa mort, il y a encore d'autres. On parlait tout à l'heure des médecins légistes, mais il y a d'autres problèmes, d'autres questions qui se posent.
Tout à fait sur les ratés, si vous voulez, la nuit de sa mort en fait. La nuit de sa mort. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que dans la prison dans laquelle il était incarcéré, il y a eu un enchaînement de ratés qui pose question. Je le fais un peu rapidement pour que vous compreniez. Dans cette prison très sécurisée, le soir de sa mort, aucune caméra de surveillance ne fonctionnait.
Ah, c'est ballot.
Les gardiens, qui étaient chargés de le surveiller chaque 30 minutes, n'ont pas effectué les rondes cette nuit-là. On sait, parce qu'il y avait une caméra de surveillance qui marchait dans leur loge, qu'ils ont dormi. Au lieu de le surveiller, on les voit en train de dormir. Quand ils se réveillent, ils ne vont pas faire la ronde des cellules, ils font du shopping sur Internet.
D'accord. Mais on leur a demandé des comptes, ils ont dû se justifier quand même à un moment donné.
Alors ça aussi, ça participe au mystère, parce qu'ils ont finalement reconnu qu'ils avaient même falsifié. Vous savez, il y a un carnet dans lequel ils devaient noter minuit 2, ronde, minuit 32. Ouais. Donc ils ont falsifié a posteriori, ils ont reconnu l'avoir falsifié. Et ils n'ont finalement pas été inquiétés. Parce qu'ils ont passé un accord tenu secret encore aujourd'hui avec les procureurs. Et donc, ces gardiens ont disparu.
Beaucoup de secrets dans cette
histoire. Et donc, comment ne pas...
aujourd'hui, ils ont disparu. Vous les avez cherchés
Alors oui, on était sur le point de trouver l'une des gardiennes qui s'est reconvertie aujourd'hui. Mais bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'enquête. Mais aujourd'hui, ils sont introuvables. Ils n'ont pas été inquiétés et ils continuent leur vie. Et...
Donc, ils sont protégés potentiellement par quelqu'un.
C'est la question qui se pose.
On peut vraiment imaginer toutes sortes de choses dans ce dossier. Je lisais qu'Epstein avait caché des caméras dans toutes les pièces de sa propriété de Floride pour filmer des personnalités en plein acte sexuel pour pouvoir ensuite, évidemment, les faire chanter. Est-ce que ce genre de pratique, ça a pu entraver le bon déroulement de l'enquête ?
Alors ça, c'est une supposition. Nous n'avons pas la preuve aujourd'hui. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que la propriété de Palm Beach et l'hôtel particulier de New York, à chaque fois, les enquêteurs ont trouvé des caméras cachées. Alors, à quoi servaient ces caméras cachées ? C'est toute la question. Plusieurs victimes, dont l'une des principales victimes, Virginia Giuffray, a dit avec certitude que ces caméras servaient à filmer effectivement des invités pour après les faire chanter, que d'ailleurs Jeffrey Epstein aurait fait sa fortune là-dessus. Mais aujourd'hui...
Il y avait un mode opératoire, on arrivait chez lui, c'était quoi ? C'était une soirée, on
Alors buvait. Visiblement, il ne faisait pas de soirée.
Donc on venait juste pour profiter de services sexuels ?
Nous ne sommes que sur des suppositions, parce que ce qu'on sait, avec, on a des bribes de témoignages de femmes qui disent qu'elles ont été agressées par lui, certaines femmes qui disent qu'elles ont été prêtées par Jeffrey Epstein à d'autres hommes puissants, et qu'elles ont été amenées sur son île dans les Caraïbes. Virginia Giuffre dit qu'elle a été prêtée au prince Andrew, qu'il a ensuite abusé. C'est tout ce qu'on sait aujourd'hui.
Mais il y avait quand même un mode opératoire qui était qu'il faisait recruter des jeunes femmes par d'autres femmes.
Oui, c'était toute la perversité de son système. C'est-à-dire que des victimes se sont retrouvées elles-mêmes à recruter d'autres femmes pour de l'argent. Et, parce qu'il faut quand même rappeler quelque chose, c'est que quand les premières agressions commencent en Floride. Et si vous voulez, Palm Beach, bon, c'est l'îlot des milliardaires, mais vous avez aussi West Palm Beach. Et vous avez un pont qui sépare deux univers. Et West Palm Beach, c'est le crack, la misère, des jeunes femmes
donc
brisées.
Des reculs en fait, faciles.
Voilà. Et c'est là qu'il allait recruter ces jeunes femmes fracassées par la vie. Et du coup, quand il leur proposait $200 pour recruter une autre femme, pour elles, c'était énorme.
Et on sait combien il y a de victimes ?
Avec certitude, non. Il y en aurait des milliers.
Des milliers, des milliers. Des milliers de femmes, oui. Beaucoup de femmes qui n'ont pas témoigné, potentiellement qui ont peur.
Aujourd'hui, ce serait des milliers de femmes, d'après la justice, d'après les avocats des victimes. Et je suis certaine, évidemment, qu'il y en a plein qui n'ont pas témoigné. Moi, j'étais en contact avec beaucoup de femmes qui ne souhaitent pas témoigner, notamment des femmes d'Europe de l'Est qui ont peur. Voilà.
Et vous, que pensez-vous du sympathique monsieur Epstein ? Comme Cyril, pensez-vous qu'il faut distinguer l'homme de l'artiste ? Quentin, qui après un week-end à Marseille avait des espèces à déposer sur son livret écureuil à la caisse d'épargne, est allé vous poser la question.
Je suis au pied de la Major de Marseille, ici se croisent des touristes, des minots qui jouent au foot, des trentenaires à la pétanque, et Claude, 77 ans.
L'affaire Epstein ? Epstein, c'est pas un prédateur sexuel ? Oui, donc il a été mis sur le vent de la scène parce qu'il y a eu effectivement des plaintes d'innombrables femmes, si je puis dire, qui étaient plutôt des très jeunes femmes, pour ne pas dire autre chose.
Oui, disons des mineurs, on peut dire, ce sont les faits. Pour Claude, les médias et le public nourrissent ce genre d'histoire, ce genre d'affaires.
Bah tiens, moi j'ai sur mon iPhone, j'ai Le Monde, l'actualité, je lis Le Monde, mais je vois les activités en continu. Bah, je ne peux pas ne pas le voir. Mais j'en fais pas, moi, mon chou gras particulier. Je veux dire, c'est partie du spectacle dans lequel l'opinion publique, entre guillemets, hein, personne n'a jamais déjeuné avec l'opinion publique. Donc, il s'en plaint. Mais c'est quand même pas la dernière, l'opinion publique, à jeter un œil.
Il y a un petit côté voyeurisme.
Ben oui, c'est le côté spectaculaire.
Voire glauque, hein.
Oui, glauque sûrement, mais alors c'est très volatile encore une fois. Je veux dire, la France bat le Brésil 5-0 deux heures plus tard. Pouf, terminé, on a oublié ce qu'on avait dit avant. Non mais...
Cette jeune femme maintenant découvre le thème qu'on aborde aujourd'hui dans Zoom Zoom Zen.
Il me semble que l'affaire Epstein, ça parle d'un homme très influent des États-Unis, très riche, qui serait aussi appartenant en fait à certaines chambres des Illuminati. Et il y a aussi des complots qui... Enfin, des gens du coup qui font des théories comme quoi, bah, en fait, ce serait ce genre de personne-là qui dirigerait le monde.
Hey, pour elle, Jeffrey Epstein, avec son pouvoir et son argent, a même fabriqué un piège à taille humaine.
Bah, en fait, le fait d'acheter une île, ça montre aussi que t'es sur son territoire. C'est lui qui a le pouvoir, t'es chez lui. Donc en fait, si tu fais pas ce qu'il lui veut, bah, en vrai, c'est quoi tes options pour partir ? Parce que t'as rien, t'as que de l'eau autour.
Seulement voilà, en 2019, il se suicide dans sa cellule.
En fait, il y a deux points. C'est soit le gars, il veut rien dire, et dans ces cas-là, bah, en fait, il t'a rien. Soit à la fin, il a un élan de moralité et il se dit, bah, de toute façon, vu que je vais mourir, je vais emmener tout le monde avec moi. Et du coup, bah, il dénonce tout le monde. Donc je pense que oui, il a dû être aidé à être... On a dû l'aider à mourir comme on a dû aider à mourir plein de gens aussi, qui devaient déranger et voilà. On ne saura jamais. C'est comme l'affaire Marilyn Monroe. Il y a, je crois, un peu plus de 50 ans, ils avaient dit qu'on saurait réellement ce qui s'est passé. Et en fait, on ne sait toujours pas.
Hey, le fait que le doute plane, fascine, entretient et nourrit une sorte de mythe. Alors un mythe glauque, certes, mais un mythe quand même. Ma dernière rencontre, c'est Guy. Pantalon en velours vert, chemise jaune, foulard et lunettes de soleil très chic. Il découvre...
L'affaire Epstein. Yeah, très exciting. So, ami, il faut que j'improvise là-dessus. On sait bien que le pire est certain. Non, mais argent ou pas, des orgies, il y en a à chaque coin de rue.
Alors, pourquoi pas, Guy ? Mais on espère que tout le monde est consentant dans cette histoire déjà, et sans la présence de mineurs.
Ben voilà, mais bon, maintenant, être mineur, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand les gamines arrivent à 12 ans, comme des bimbos, hyper allumeuses, etc. Je ne veux pas dire que c'est de leur faute, si elles se font agresser. Mais enfin... tellement de choses ont foutu le camp.
Tellement de choses. Wow. On a Manon Mariani qui fait un petit malaise vagal.
Ouais,
petit malaise
vagal
de Manon. On peut quand même répondre à Guy qu'être mineur, c'est déjà avoir moins de 18 ans. C'est très clair, ça, c'est la loi. Je lui demande s'il croit que dans cette histoire, on nous cache des choses.
Mais moi, je suis pas complotiste. Je sais que le monde humain est capable du pire comme du meilleur. On nous cache, on nous cache. Vous-même, vous cachez à vos parents plein de choses. Mais imaginez qu'à partir de maintenant, tout le monde autour de vous dise tout. Mais ça serait la guerre civile mondiale. Mondiale. Toutes les familles seraient brouillées. Tu sais que ta grand-mère était une belle salope. Tu sais que ton grand-père, il a collaboré, mais comme une saloperie aussi. Et ainsi de suite, mais que sais-je ? Tu en apprendrais forcément.
On en apprendrait forcément. Pour Guy, on s'offusque aussi en fonction de l'époque.
Il y a eu une époque, du temps de Gabriel Matzneff ou du temps de Gide et compagnie, des grands noms de la littérature. Les petits enfants étaient considérés comme des proies très agréables et très faciles. Et personne ne s'en offusquait. Imaginez à la grande librairie, ça ne serait pas possible.
Heureusement, non. Coupé. C'est bien qu'on est au...
Mais parce que vous êtes complètement englué dans l'idéologie contemporaine. Et dans 10 ans, vous penserez peut-être très différemment.
Les époques passent, les dérives se répètent. Car oui, en 1990, sur le plateau d'Apostrophe, on riait avec un pédophile revendiqué. Et on attaquait l'écrivaine canadienne Denise Bombardier. Heureusement, on ne reste pas englué. Et aujourd'hui, on regarde ces sujets en face, on les nomme, on les condamne. Et c'est peut-être ça, le vrai progrès. Et ce sera, on l'espère, encore mieux dans 10 ans.
J'ai pas tout compris, Quentin, que votre grand-mère était une belle salope. Enfin, je ne vois pas pourquoi ce monsieur s'est permis de
collaborer.
Mais j'ai trouvé ça dégueulasse de dire ça de vous. Virginie Villa, est-ce qu'à une autre époque, il n'y aurait pas eu d'affaire Epstein ? Parce que Guy dit beaucoup de conneries, enfin en tout cas à nos yeux, mais est-ce qu'il y a un fond de vérité au sens où effectivement les époques sont différentes ? À une époque, et c'est effroyable de le penser, Jeffrey Epstein, il serait chez lui dans son rocking chair en train de continuer son petit manège peut-être ?
Alors, ce qui est intéressant dans l'affaire de Jeffrey Epstein, c'est qu'il aurait pu être condamné à perpétuité déjà en 2008. Donc déjà là, la police avait de quoi l'envoyer en prison pour le reste de sa vie. Ce qui s'est passé, c'est que... Peut-être qu'il faut revenir un petit peu sur l'enquête. Je parlais tout à l'heure de la façon dont il recrutait ces jeunes femmes à West Palm Beach. Tout commence en mars 2005 quand il y a une mère de famille qui appelle la police, le commissariat local, et qui dit « Ma fille, en rentrant du collège tout à l'heure, avait $300 sur elle. Et elle me dit qu'elle et ses amis, elles vont chez un riche du quartier pour faire des massages. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ?» Et donc on entend, parce qu'on s'est procuré l'enregistrement. Et donc la police dit « Non, c'est la première fois qu'on entend ça. » Et à partir de là, il y a une enquête qui va commencer. Mais ils sont extrêmement prudents parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à lui, déjà quelqu'un de très puissant et très riche. Donc ils vont fouiller les poubelles de Jeffrey Epstein, ils vont espionner, ils vont essayer d'interroger des femmes. Mais en parallèle, les avocats très puissants de Jeffrey Epstein, les meilleurs des États-Unis évidemment à l'époque, vont faire pression sur ces femmes. Et donc la police rassemble énormément d'éléments. Mais à ce moment-là, Jeffrey Epstein fait tout pour les empêcher. Et donc, ses avocats vont réussir à faire un accord totalement inédit dans l'histoire de la justice. Ils vont le faire plaider coupable de sollicitation de prostitution, qui est bien moins grave que trafic de mineurs. Et donc, il aurait pu aller en prison 45 ans. Et finalement, il va être condamné à 18 mois de prison. Il n'en fera que 13. Il est dans une cellule de luxe et il peut sortir de sa cellule 12 heures par jour. Ouais. 12 heures par jour.
Et rentre pour dormir.
Alors officiellement, ses avocats ont négocié ça pour, vous comprenez, c'est un businessman, il a besoin de travailler. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que pendant ces 12 heures, il prenait régulièrement son jet pour aller à New York, et on sait aujourd'hui qu'il a agressé d'autres femmes à cette époque-là.
Il y a une chose qui ressort quand on parle avec les gens dans la rue, c'est le... Alors, on est presque sur la frontière du complotisme, mais on parle, vous l'avez entendu, des Illuminati, on parle de l'affaire Marilyn Monroe, qu'on nous cacherait peut-être des choses. Est-ce que vous avez fouillé de ce côté-là ou pas du tout ?
L'affaire Jeffrey Epstein, elle est tentaculaire, mais c'est surtout effectivement une affaire qui fascine les complotistes. C'est même l'histoire préférée des complotistes, je pense. Donc au début, par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que moi j'hésitais même à aller sur la mort parce que je me disais, ça c'est les complotistes qui ont déliré, etc. Il y a beaucoup de fantasmes autour de Jeffrey Epstein. Certains disent que c'était un espion, que c'était notamment un espion du Mossad. Beaucoup de de choses. Après, non, je ne suis pas allée sur la piste des Illuminati, oui, non, ça certainement pas, mais c'est sûr que moi, au cours de mon enquête, j'ai même eu plusieurs personnes, parfois sérieuses, qui m'appelaient et qui me disaient, vous savez, c'est la famille royale britannique qui l'a fait assassiner en prison, on a les preuves, alors bon, je leur disais de surtout pas hésiter à les fournir un complément d'enquête.
Ce qu'ils n'ont pas fait.
Bien sûr, jamais
on les attend toujours. Zoom Zoom Zen,
Mathieu Noël, sur France Inter. Un serial pédocriminel, quoi de plus rieur comme sujet pour le Zoom Zoom Test. Mais bon, après tout, si Marie De Breuer arrive à nous faire marrer avec une comédie musicale sur l'affaire Pellico, moi aussi je peux le tenter. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? On dirait que je me dédouble, moi aussi. Mamma mia. Dis Mathieu, tu sais quel est le second prénom d'Epstein? Bah non, je sais pas. Allez Mathieu, t'as une petite idée quand même? Bah non, je sais pas. Enfin Mathieu, Franck Epstein, tu l'as? Excellent, tire sur mon doigt Manon. Oh, la glace étant brisée, jouons au Zoom Zoom Test spécial Jeffrey Epstein.
Avais-je demandé
ce complément sonore? Je ne pense pas. Comme le répète Cyril à longueur de journée depuis la condamnation du président Sarkozy en se lacérant le torse avec des Chris Prolls pour, entre guillemets, expier sa peine en se châtiant tel un viking, gardons-nous de juger les gens trop vite. Peut-être Jeffrey Epstein a-t-il des circonstances atténuantes. À sa décharge, par exemple, Jeffrey n'est pas un héritier. Il s'est fait tout seul, si j'ose dire, à la force du poignet. Et avec un certain panache, puisqu'il a d'abord réussi à obtenir sa licence de taxi alors qu'il n'avait même pas le permis de conduire, à devenir prof de maths alors qu'il n'avait même pas le bac, ou à exercer en tant que masseur-kinésithérapeute sans diplôme, parce que la vocation, tu connais.
A et B ?
Non mais...
Est-ce qu'il n'avait pas fait les deux ?
Oui, évidemment, tout est possible, Quentin, mais je vous demande de choisir.
Il dit A et B, on y rate.
C'est une mauvaise réponse, c'était uniquement la réponse B, Quentin. C'était la moitié de ce que vous avez dit. Une success story à la Quentin, lui. Avec comme seul diplôme son bagout, Epstein décroche d'abord un poste de prof de maths et se fait repérer par le père d'un de ses élèves, trader à Wall Street. Il commence alors une nouvelle carrière dans la grande banque d'investissement Bear Stearns, où il conseille de riches clients sur des stratégies fiscales, jusqu'à créer sa boîte en 1982 et faire fortune des années plus tard avec un client bien particulier, lequel Leslie Wexner, le patron de Victoria's Secret US, Hugh Hefner, le patron de Playboy US, ou Michou, le patron de chez Michou, Montmartre.
Non, je dirais Victoria's Secret, moi.
Ouais, décidément, ça cogite plus vite du côté de Manon. Bonne réponse de Manon, effectivement.
Oui, c'est une pourriture, lui aussi.
La fortune d'Epstein a décollé. C'est grâce à Leslie Wexner, le boss de Victoria's Secret, qui a permis à notre champion du stupre d'allier ses deux passions, l'argent et les femmes en petite tenue. Puisque non content d'avoir détourné 50 millions des poches de Leslie vers les siennes, ce qui, somme toute, n'est pas si surprenant, Quentin aussi avait emprunté, je le rappelle, un percolateur à 1000 balles à son employeur Café Richard il y a quelques années.
Que j'ai rendu.
Ce que vous dites. Jeffrey est allé plus loin en profitant de ses liens avec Victoria's Secret pour se faire passer pour un agent recruteur de la marque afin d'être au contact des jeunes top modèles. Comme disait Martin Lamotte dans Papy fait de la résistance.
C'est ignoble. Y a pas de mots, y a plus de mots. Enculé.
Le texte est également ce que Pierre Courade avait lancé à la serveuse de chez Prosper vendredi soir, excédée par son manque d'initiative. Mais ce quiz ne porte pas sur une galerie de pervers, seulement un en particulier, Jeffrey Epstein, qui n'était pas seulement vicelard et cynique, il était aussi mégalo, plus encore que Pierre Courade. Impossible, me direz-vous? Eh bien si, car impossible n'est pas américain, la preuve. Chaque soir, avant de se coucher, sous le tableau représentant Donald Trump chevauchant un Mustang à la poursuite d'un Joe Biden dont la tête est posée sur un corps de putois, Cyril Lacarrière prie. Il demande au Très-Haut de veiller sur l'âme de Jeffrey, son old buddy, qui selon lui a été victime d'une sinistre machination des pédosatanistes démocrates qui tirent sur les ficelles de l'État profond. Pour Cyril, Jeffrey était un pionnier, mieux, un visionnaire. La preuve, et ça c'est une vraie info, on le sait peu, mais Jeffrey Epstein a financé les soins de l'astrophysicien Stephen Hawking pendant 20 ans, persuadé que ce dernier trouverait le moyen de remonter le temps. Jeffrey Epstein,
c'est un gros pari.
Jeffrey Epstein voulait faire partie du premier vol sur Mars pour tester la bouillave en apesanteur. Jeffrey Epstein voulait se faire cryogéniser la tête et le membre viril pour pouvoir les utiliser plus tard.
Il y en a plein.
J'irais A quand même. J'irais A.
Vous misez tout sur Stephen Hawking.
Ouais.
C'est un gros pari quand même. Bah non, effectivement. Non mais vous, Quentin, c'est une catastrophe aujourd'hui.
Bah B alors.
Mais non, c'était la réponse C. La réponse C. Voilà quelqu'un qui se tenait en haute estime et qui estimait dommage de priver les générations futures de son cerveau et surtout de son pénis, qu'il souhaitait donc faire cryogéniser afin que cette jolie bûche glacée puisse être un jour ravivée à la faveur des progrès technologiques. Accessoirement, une bonne idée n'arrivant jamais seule, Epstein souhaitait aussi féconder une vingtaine de femmes afin de perpétuer son noble ADN. Not a good idea, buddy, lui avait dit Cyril Lacarrière, qui, à trop vouloir perpétuer son ADN, a fini avec deux familles à nourrir, une à Paris et une dans le Luberon. Enfin,
Pour conclure ce quiz sur Jeffrey Epstein, une question aviation. En régie, Pierre Courade a interdiction de souffler. Il est temps en effet d'écouter Jeffrey, le citoyen du monde, qu'il parcourait à bord de son Boeing 727 avec le même mépris pour l'environnement que Cyril et Quentin faisant des tours de caisse dans Marseille, mode bromance mécanique activée, j'ai vu les photos. Montons
ma
donc,
vidéo plutôt.
Une vidéo, très très bonne vidéo. Montons donc à bord de ce Boeing 727 qui a tant servi à Epstein, que ce soit pour rallier Manhattan à Los Angeles, qu'afin de se rendre sur son île privée de Little St. James dans les îles Vierges américaines, où la légende dit qu'à part les îles, peu de choses étaient vierges. Si son île a hérité du doux surnom de Pedophile Island, quel a été le surnom, tout aussi charmant et évocateur, donné à l'avion de Jeffrey par les habitants de l'île? Lolita Express, Sex Force One ou Booyah Verlaine?
B. Lolita Express.
Vous aviez l'air de, pour le coup, pour une fois, vous avez l'air de le savoir, Manon.
Bah je sais pas, j'ai l'impression que c'est ça.
C'est très drôle,
Vous l'avez dit avec une telle autorité. Ouais. Et Sex for One, Force One aurait été très drôle, mais c'est la réponse 1. Lolita est malheureusement pas en raison d'une passion de Jeffrey pour la littérature russe. Mais c'est une victoire de Manon. Et là, vous l'avez en travers de la gorge, Quentin. Bravo Manon. A-t-il emporté son secret dans sa tombe? Vous applaudissez vous-même.
Tous les jours. Vous le faites aussi, lui.
Non.
A-t-il emporté son secret dans sa tombe? L'affaire Jeffrey Epstein cet après-midi dans Zoom Zoom Zen, 6 ans après la mort du milliardaire accusé de crimes sexuels. On est toujours avec la grand reporter Virginie Villard qui a enquêté sur les parts d'ombre de cette affaire. Alors, il y en a vraiment beaucoup. Virginie, au cours de votre enquête, vous avez remonté la piste d'un complice d'Epstein, un Français, Jean-Luc Brunel. Qui est-il?
Alors Jean-Luc Brunel, c'était ce qu'on appelle en anglais un scout, un chasseur de mannequins. Donc son travail, lui, c'est de parcourir le monde et d'aller en Europe de l'Est, au Brésil, trouver les nouvelles stars mannequins. Et donc il avait son agence de mannequins et c'était aussi un ami de Jeffrey Epstein. Et les enquêteurs se sont intéressés à lui parce qu'il a été accusé de fournir des femmes à Jeffrey Epstein. On parlait tout à l'heure de l'affaire en Floride, quand il a été. Donc, il recrutait ces femmes à West Palm Beach, dans les quartiers pauvres, puis il a été condamné. Quand il est sorti de prison, certains avocats m'ont dit qu'il fallait qu'il soit un petit peu plus discret cette fois-ci. Donc, il allait chercher ces femmes un peu plus loin. Okay. Et donc, c'est pour ça qu'il aurait fait appel à Jean-Luc Brunel pour lui fournir des femmes sans défense, qui venaient souvent de pays très pauvres en Europe de l'Est, qui avaient des étoiles dans les yeux quand elles arrivaient à Paris, parce qu'elles pensaient qu'elles allaient être des stars, la nouvelle mannequin star. Donc voilà. Et donc, il y a eu une enquête à la fois américaine et française sur Jean-Luc Brunel.
Et il a été arrêté en 2020, il a été retrouvé mort dans sa cellule de prison de la santé en 2022.
Lui aussi pendu.
Oui. Là, pas de doute sur le fait que c'était un suicide.
Non, a priori, aucun doute sur le fait qu'il s'est suicidé. Mais effectivement, ça alimente encore une fois les thèses complotistes.
Ben pour parler de Donald Trump, qui est quand même un gros dossier autour de cette histoire, la presse américaine et les démocrates ont révélé des éléments qui tendraient à prouver que le président américain et Jeffrey Epstein étaient très proches. Est-ce qu'on l'ignorait jusqu'à présent?
Non, d'ailleurs, j'ai été surprise qu'il y ait autant d'agitation cet été, parce que, en fait, c'était pas un secret. On sait que Jeffrey Epstein et Donald Trump étaient amis. En 2002, Donald Trump disait « Jeffrey est un type formidable, il aime les femmes autant que moi et elles sont parfois très jeunes ». Alors finalement, après, il a changé de ton, il a dit qu'il ne l'aimait pas, il a essayé de minimiser un petit peu.
Mais l'agitation, elle est peut-être là, médiatique, parce qu'il avait dit qu'il donnerait tout le dossier, toutes
alors
les failles,
voilà.
Il ne l'a pas fait.
Sur ses liens, concrètement avec Jeffrey Epstein, on sait qu'ils sont amis, il y a des photos, des vidéos, on les voit rigoler dans des soirées en train de regarder des femmes, etc. L'agitation aujourd'hui, c'est que Donald Trump, pendant des semaines, pendant sa campagne, a dit à tous ses électeurs, vous inquiétez pas, avec moi, je vais tout révéler, je vais faire des révélations.
Sa deuxième campagne.
Exactement. Il dit, je vais faire des révélations fracassantes sur cette affaire, je vais révéler les documents que les démocrates vous cachent depuis des années. Et puis finalement, cet été, le ministère de la Justice dit, finalement, on a regardé les documents, il n'y a pas de nouvelles choses, il n'y a rien qui justifie de faire de nouvelles publications. On a regardé, finalement, il n'y a pas vraiment de doute, Jeffrey Epstein se serait bien suicidé, circuler, il n'y a rien à voir.
Quentin ?
Il pourrait y avoir d'autres noms qui viendraient à apparaître dans les prochaines années autour de cette affaire ?
Sans doute, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a accès à une infime partie des documents, des éléments de ce dossier. Donc oui, déjà, moi, en ayant consulté l'enquête qui a été faite par la police française, j'ai découvert d'autres noms, d'autres profils, d'autres rabatteurs. Donc, je pense qu'on est très très loin du compte.
Ben non.
Qu'a changé, selon vous, le mouvement MeToo dans la manière dont la justice aborde, on va dire, ce genre d'affaires de prédation sexuelle ?
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Par exemple, quand il est jugé et condamné, alors certes à une faible peine de prison en 2009, quand il sort en 2009, il va continuer à vivre une vie tout à fait... tout le monde s'affiche à côté de lui, personne n'a honte d'être à ses côtés, il n'est pas vraiment inquiété. Alors qu'aujourd'hui, déjà en 2019, les choses vont changer. Et là, je pense que tout le monde savait que l'époque était différente, parce que MeToo était passé.
Vous écoutez France Inter, il est 16h47. France 2 à complément d'enquête, nous on a la pièce jointe de Manon Mariani.
Oui, c'est le même niveau.
Oui.
Aujourd'hui, un documentaire, il s'appelle Jeffrey Epstein, Filthy Rich, et il est sorti sur Netflix en 2020. 4 épisodes qui reviennent sur la vie, les crimes et surtout l'impunité d'un homme richissime et monstrueux. Jeffrey Epstein, financier new-yorkais, collectionneur de relations, d'adresses, ami des présidents, des princes, des scientifiques, des mannequins. Un homme qui se disait philanthrope, mais qui pendant des décennies a organisé un vaste système d'exploitation sexuelle de jeunes filles mineures. Le documentaire donne justement la parole à celles qu'on n'avait jamais vraiment entendues, les survivantes. Des femmes racontent face caméra comment, adolescentes en général, elles ont été recrutées pour des massages dans la villa d'Epstein en Floride, puis entraînées dans un réseau de chantage et de silence. Certaines avaient 14 ou 15 ans à l'époque et dénoncent aussi la complicité de la femme d'Epstein à l'époque, Ghislaine Maxwell. Comment une femme a réussi à mettre en confiance des jeunes ados qui venaient des quartiers pauvres pour les exploiter, les livrer à son mari et ses amis puissants pour qu'elle se fasse violer. Toutes racontent la même mécanique, une première victime qui en recrute d'autres, la promesse de l'argent facile et derrière, la peur, la honte, la destruction.
Je voulais lui demander, tu te rappelles de moi ? Tu te rappelles de mon visage ? Bien sûr que non, tu ne t'en rappelles pas, car il y a des centaines de victimes comme moi. Tu ne te rappelles pas de moi, mais moi, je me souviendrai de toi toute ma vie.
Les témoignages de ces femmes font froid dans le dos. Elles osent nommer ce qu'elles ont subi et raconter comment elles ont fini par s'allier pour faire tomber l'homme intouchable. Ce qu'on découvre aussi, c'est comment ce système a tenu et pourquoi on en a parlé pendant l'émission. Le documentaire ne révèle pas de faits inconnus, mais il a permis au grand public de comprendre qui était Epstein et qui étaient aussi ses proches. Il a cumulé plus de 30 millions de visionnages en quelques semaines. Les articles exposent les noms d'amis célèbres d'Epstein comme Bill Clinton, Donald Trump ou le prince Andrew. Deux ans plus tard, Netflix sortira un second volet, cette fois-ci sur Ghislaine Maxwell, l'alliée et complice d'Epstein, condamnée en 2022 à 20 ans de prison.
Merci Manon. Virginie Villard, est-ce que l'affaire Epstein a reconfiguré la manière dont les médias traitent les scandales sexuels liés aux puissants ?
Je ne sais pas si c'est uniquement l'affaire Epstein, mais heureusement, je me réjouis de constater que ces dernières années, les choses ont évolué. Depuis 2017, on regarde les choses différemment. Moi, je me rappelle au tout début, en 2017, quand j'ai commencé à travailler, par exemple, sur l'affaire Georges Tron, je me rappelle parfaitement comment les femmes étaient traitées dans le tribunal, comment elles étaient interrogées. C'était d'une violence vraiment folle. Aujourd'hui, je crois qu'on a quand même...
Ça a encore été le cas lors du procès de Depardieu, cela dit, si on veut être un peu pessimiste.
Absolument, tout n'est pas... Il y a encore beaucoup de travail, ça c'est sûr, mais je crois quand même que les choses ont évolué, que maintenant on écoute cette parole, qu'on a aussi entendu des agissements systémiques qui se mettaient en place, et puis je pense qu'il y a une certaine colère face à cette impunité aussi, l'abus de pouvoir qui a eu lieu pendant plusieurs années, et l'affaire Epstein en est l'exemple flagrant.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Quelle ne fut pas sa stupeur lorsque, en consultant les Epstein Files entre Donald Trump et Andrew Tate, Pierre Courade découvrit le nom de l'abbé Chibrard. Father Big Cock, comme le surnommait Jeffrey Epstein, qui, décidément vicieux comme c'est pas permis, adorait faire bénir ses orgies à Manhattan. Désolé Pierre, je sais que l'abbé était comme un père pour vous. Il vous avait transmis la foi et le goût des jeux de mots douteux. Je rappelle à GC le dernier en date.
C'est un hôtel Ibis, hein. On ne sait toujours pas si c'est un budget ou un style, mais comme on est à Marseille et qu'on doit faire des économies, ça doit être un Ibis pas cher.
Sous le regard atterré de GC, merci de nous résumer.
Il n'y avait pas de
rire. Non, il n'y avait pas de rire. Merci de nous résumer tout ce qu'on s'est dit sur l'affaire Epstein en une minute chrono, s'il vous plaît.
Oui, l'affaire Epstein, aujourd'hui, on a décidé d'en parler parce que Bill Clinton devait être entendu sur ce sujet dans la journée par une commission d'enquête du Congrès américain. Et puis sur les coups de 13h, un push nous apprenait que l'audition avait été reportée. Mais comme Cyril avait déjà écrit son douce assort, on est quand même revenu sur cette affaire tentaculaire.
Ça, c'est drôle.
Une affaire tentaculaire de crimes sexuels visant le milliardaire américain avec notre invité qui a enquêté dessus, la journaliste Virginie Villard. Un procès devait se tenir en 2020, mais la mort de Jeffrey Epstein en prison a mis un terme aux poursuites. Une mort encore mystérieuse, comme nous l'a raconté notre invité. Officiellement, Epstein s'est suicidé, mais d'après ses investigations, des faits troublants sont apparus. Troublant aussi les liens entre Donald Trump et le criminel sexuel. Récemment, un mot signé Donald Trump destiné à Epstein a été retrouvé. Les républicains répliquent, d'où la convocation du couple Clinton pour mouiller les démocrates. Les Clinton connaissaient Epstein, c'est de notoriété publique. Mais au-delà de la tournure politique que prend cette affaire, ce sont des milliers de victimes qui attendent que justice soit faite, des milliers dont des mineurs. Des ramifications ont été révélées jusqu'en France. Tous les mystères d'Epstein n'ont pas encore été dévoilés.
Merci Pierre. Et on retrouve maintenant GC, à qui cette chronique ne fait pas peur.
Mais non Mathieu, je suis habitué maintenant. Hein. Chaque année, j'ai ma petite chronique feel good sur un gros pervers. L'année dernière, c'était Puff Daddy. Cette année, Epstein. Hâte de l'année prochaine, Gérard Miller, c'est ça? Ah non, Pierre Courage, très bien. Je rigole Pierre, on s'intéresse qu'aux puissants ici. Et en plus, tout le monde sait que j'étais consentant. Bon, bah Epstein, allez hop, sale l'histoire, hein, encore un vieux riche qui se croit tout permis. Ça m'inquiète, hein, comment tu vas finir, Mathieu? Bah oui, faites gaffe autour de la table, hein, si vous propose une chronique en plus contre un massage. Voilà, la Marianique a déjà sorti l'huile, évidemment. Ah, ma puce, tu t'en sors déjà pas avec une seule chronique, hein, qu'est-ce que tu vas faire?
J'en ai deux, merci.
Non, pardon, ta veille sanitaire, c'est pas une chronique, c'est une prise d'otage. Hein, après, j'ai regardé des photos.
Mais je suis là.
Tu mérites, hein. Les gens savent pas ce que tu me dis hors antenne. Après, j'ai regardé des photos de Epstein au début des années 2000, quand il commençait à faire ses massages chelous, là, franchement, grave beau gosse.
Non,
je peux vous dire que j'y serais allé, hein, moi. Alors avec la chance que j'ai, je serais le seul qui l'aurait pas calculé. Mais je suis consentant, moi, Jeffrey. Laisse cette petite portoricaine de 13 ans. Hein, voilà, tu verras, on voit pas la différence de dos. Bah oui, c'est dur aussi. Mais le mec est new-yorkais, financier, milliardaire. Pardon, mais pour moi, c'est pas un agresseur, c'est l'homme de ma vie, en fait. Hein, moi, y a pas de souci, je lui fais tous les palpés roulés qu'il veut. Hein, puis je peux dire qu'à la finition, je te les fais à la bave, les finitions. Bon, évidemment, j'en aurais profité pour libérer tous les esclaves sexuels que j'aurais croisés. Bien sûr, je leur aurais dit partez, allez-y, je m'en occupe. Hein, et embarquer le Picasso, je vais refaire la déco de toute façon. Hein, en plus, j'apprends, pardon, mais que le gars avait une île paradisiaque où on peut croiser des princes anglais. Mais quel gâchis que ce soit un détraqué. Même sous MD, mon paradis ressemble pas à ça. En plus, je suis sûr, j'aurais été trop copine avec la reine d'Angleterre. Je suis sûr, on aurait été là. Hello, darling. Cup of tea, chop chop. Mais comment j'ai pu passer à côté de cette vie? Et en même temps, la GC, hein, elle peut pas être partout. Hein. Dans les années 2000, elle était déjà dans un autre trou du cul, à savoir la Côte d'Or. J'étais devant Charmed à refaire toutes les chorées de la Starac. Je n'avais pas le temps pour Jeffrey Epstein. Hein. Mon cœur était déjà pris par Patchy, en fait. Je vous le dis, si j'avais été en couple avec Jeffrey Epstein, ma limite, ça aurait été Jay-Z. Voilà, c'est mort, je couche pas avec une tortue qui a des dreadlocks. Hein. En plus, si c'est pour qu'à chaque fois il soit là, yo Jesse, what's up New York? Non, fatigant. Enfin, sauf, j'avoue, si Beyoncé regarde. Là, ok, tout ça pour que je puisse faire all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. Elle est bien la Corée, non?
Je la refais bien.
Tout ça grâce à Kamel Wally. Hein. Mais je peux vous dire qu'elle m'en devra une. Elle m'en devra une, la Queen Bee. Parce que je pense qu'elle non plus, elle a pas envie d'aller au charbon. Hein. Elle voulait juste une carrière, comme nous tous. Hein, Manon? Ouais. Oui, toi non plus, t'as pas envie de te taper le père la carrière. Hein. Et pourtant, here we are, comme disent les Ricains. Ah, mais si j'avais rencontré Jeffrey, aujourd'hui, je peux vous dire qu'on serait mariés, que j'aurais la même bagousse que Taylor Swift et qu'il serait jamais devenu un trafiquant sexuel. Pourquoi? Parce que je l'aurais tellement usé qu'il aurait pas de patience pour les autres, ni de temps pour les autres, ni d'ailleurs d'énergie pour les autres. Et à l'heure actuelle, j'aurais un manoir. Je me suis
fourché. Oui, j'ai vu, mais t'as pas
vu, mais je me suis rattrapé, je suis un pro. Et à l'heure actuelle, pas comme certains qui bafouillent. Et à l'heure actuelle, j'aurais un manoir à Manhattan, plutôt que même pas de bureau à France Inter. Voilà, hein. Et je recevrais pas des messages Instagram de mon boss qui me disent « C'est quoi déjà ton prénom ?» Mathieu ?
Oui, c'est moi.
Oui,
Mathieu.
Cette question.
Pardon, on parlait en régie pour le timing.
C'est dingue. Mais en fait, je suis quoi ici ? Je suis vraiment la dernière roue du carrosse. En tout cas, on me respecterait dans mon autre vie.
Ça va se terminer, non ?
Non, ça se finit pas. Enfin, on me respecterait. C'est une prise d'otage aussi. On me respecterait, mais enfin, Epstein serait devenu un gros porc tout pareil. Voilà. Et en plus, les riches, ils aiment pas trop qu'on se moque d'eux. Donc finalement, je suis bien avec vous. Parce que vous êtes peut-être pauvres, mais vous avez beaucoup de second degré.
Enfin, pas toujours quand même. Pas toujours.
Ah, c'est fini ? C'est pas la.
Ah non, mais vas-y, Mathieu, c'était écrit.
On n'est pas assez prêts.
C'était écrit tapis fin.
Pas de soucis, allez-y. Allez-y.
Et pardon
de ne pas avoir compris que Jesse était votre vrai nom. J'ai cru que c'était un pseudo, moi, mais effectivement, c'est votre vrai nom.
Vraiment, oui,
et je me coucherai moins bête, effectivement. Merci. Jesse sur les planches, on vous retrouve. Alors, c'est complet en 2025. Vous serez aux têtes des Mathurins pour 8 exceptionnels en juin 2026. On vous retrouve en tournée partout en France dès janvier 2026. Toutes les infos sur icijesse.com. Merci, Virginie Villard, d'être venue nous éclairer sur les derniers mystères de l'affaire Epstein, même s'il en reste beaucoup. Les derniers mystères de l'affaire Epstein, c'est d'ailleurs le titre de votre documentaire diffusé dans le cadre de l'émission Complément d'enquête. On peut le retrouver sur le site France.tv. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Zoom Zoom Zen.